Vous écoutez
RMC.
On part tout de suite à Lisbonne, retrouver donc Mohamed Bouafsi, qui est là, l'enfant de l'after, qui maintenant vole de ses propres ailes. Le mec a ses propres émissions. Il pose des questions dans toutes les langues. Enfin, il essaye en tout cas. Et il est de retour ce soir. Salut Mohamed.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut à toutes et à tous. Je ressens de la nostalgie, je suis au téléphone, je ressens de la nostalgie des années où j'étais auditeur, où j'ai appelé au 32-16. C'est assez exceptionnel. J'ai un peu d'émotion là, je vous le dis.
Voilà, maintenant ça te coûte moins cher parce que tu as un téléphone payé par RMC. Bon alors,
c'est pas possible.
Dis-moi, donne-nous les dernières infos. Bon, on va parler, on va entendre Verratti dans quelques instants, mais que faut-il savoir de la journée du PSG à Lisbonne?
Alors, il faut savoir une chose. Alors, tout d'abord, on va être extrêmement sincère avec tous nos auditeurs. Il est 20h07 à Lisbonne. L'entraînement est toujours en train d'avoir lieu. Il est en train de se finir même l'entraînement du PSG parce qu'il démarrait à 19h heure portugaise, donc 20h en France. Et la bonne nouvelle pour tous les supporters parisiens, c'est que Keylor Navas, le gardien du PSG, est monté dans le bus pour se rendre à l'entraînement. Alors, bien évidemment, dans quelques minutes, on va avoir toutes les informations de l'entraînement dans l'After Foot d'ailleurs, avec vous et sur rmcsport.fr, puisque parfois, Thomas Tuchel nous a fait quelques petites cachotteries, des joueurs qui sont montés en bus et qui ne se sont pas entraînés. Mais là, Keylor Navas était attendu à l'entraînement et le staff du PSG était très conscient, notamment sur sa présence à l'entraînement collectif, donc sa participation. Et il y a quelques heures encore, j'ai discuté avec un membre de l'entourage du gardien du PSG qui me disait, ça y est, il est prêt, il a envie de jouer ce match, même s'il ne sera pas à 100%, il a envie absolument de participer à cet événement avec ses coéquipiers, lui qui a gagné la Champions League avec le Real Madrid. Il a envie de jouer, donc ça c'est la très très bonne nouvelle côté parisien. Même si
bon, enfin, qu'il a envie de jouer, c'est bien joli, mais qu'en est-il de sa blessure, c'est ça.
Voilà, c'est ça que tu allais... Je savais que tu allais me poser cette question, Gilbert. Alors, concernant sa blessure, c'est une lésion au biceps fémoral. Alors, franchement, ce genre de blessure, normalement, on ne peut pas revenir aussi vite. Donc, la période de réathlétisation, elle a été très rapide pour lui, et elle a d'ailleurs été très rapide
donc, le PSG va prendre un risque?
Non, Gilbert, parce que le plus important, d'ailleurs, c'est que tu as été un très bon joueur de foot, Gilbert, c'est d'abord le joueur. Oui, ce que tu as marqué quand tu as fait la principauté de Monaco, quand même.
Vas-y, enchaîne, là, Navas.
Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le joueur doit se sentir lui-même capable de jouer ce match, et lui, ouais, se sent capable de disputer ce match, et c'est la même chose
pour
Marco
Verratti. On va le mettre face à ses responsabilités.
C'est, pour l'instant, en tout cas, le sentiment qui règne. Après, il reste quand même 72 heures, donc en 72 heures, il se passe encore des choses, il peut se passer encore des choses. Sergio Rico, lui, se tient prêt pour disputer ce match. Sergio Rico qui est plutôt serein, apaisé, il est là, il est capable de débuter. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième très bonne nouvelle, et c'est d'ailleurs, on va l'entendre dans quelques secondes dans la soeur, c'est Marco Verratti. Lui, il l'a dit, il sent bien, il est à 100%. Il a participé ce soir à l'entraînement avec le PSG. Lui aussi a eu une période de réathlétisation très très rapide. On peut d'ailleurs dire un petit mot en deux secondes du docteur Baudot et de tout le staff médical du PSG, l'ancien docteur de l'OM et de l'Olympique Lyonnais, qui ont procédé à beaucoup beaucoup de travail avec les joueurs. Donc Marco Verratti, lui, se sent prêt. Dans l'entourage de Verratti, on dit qu'il est à 100%. Dans le staff de Thomas Tuchel, on dit qu'il y a de très très fortes chances de voir Marco Verratti titulaire avec le PSG dimanche soir pour débuter face au Bayern Munich. Marco Verratti était en conférence de presse cet après-midi. Il se sent capable. Il a dit qu'il voulait participer à ce match lui aussi. Donc voilà, toutes les bonnes nouvelles sont là. Idriss Agaïn, lui aussi, a participé à l'entraînement collectif. La seule question désormais est de savoir si Keylor Navas peut débuter cette rencontre allez, j'ai envie de dire 80%, 90%. Eric Dimeco dit souvent qu'un joueur de foot ne démarre pas un match à 100%. La seule question est de savoir si Keylor Navas sera vraiment capable de démarrer sans aucune gêne.
Merci Mohamed.
Merci à vous messieurs.
Bon, s'il y a d'autres infos, t'es le bienvenu jusqu'à minuit évidemment, hein, dès que l'entraînement se terminera.
Merci beaucoup.
À plus, bonne soirée. Alors, dossier par dossier, Navas, vous en dites quoi les gars? On prend le risque, enfin le PSG doit prendre le risque, comment vous
on
sentez l'histoire?
On peut pas répondre à ça parce qu'on connaît pas l'état du risque, on connaît pas l'état de santé véritable. En fait, c'est pas des vraies questions, ça pour moi c'est perte de temps parce qu'on peut pas savoir s'il est capable ou pas. Ce qui est plus étonnant, c'est plutôt que quand je disais on le met face à ses responsabilités, c'est-à-dire qu'en gros c'est un peu lui qui décide. Il dit moi je suis en état donc je joue. Ce qui confirme.
Donc si ma première question te plaît pas, je te pose celle-là. Est-ce qu'il doit jouer?
C'est ce qu'il dit. Mais j'en sais rien, parce que je suis pas médecin.
Bah, on peut quand même.
En revanche, moi, je veux bien te répondre à l'idée que c'est lui qui va dire je me sens bien pour jouer. Ce qui conforte mon idée, l'idée que j'ai depuis pas mal de temps, que ce groupe est en autogestion et que Tuchel organise l'entraînement, mais qu'au fond, il y a des joueurs qui ont des statuts de titulaires dans cette équipe et que, grosso modo, c'est eux qui vont décider s'ils jouent ou pas.
Preuve en est avec Verratti. Est-ce que Momo nous dit au sujet de Verratti?
C'est le deuxième chapitre. Ouais. Déjà, premier chapitre, Navas.
Attends, Navas.
Oui. On avait eu le chapitre.
Que tout le monde donne son avis sur Navas.
En fonction de sa cheville. En gros, les fameux, les gros titulaires, c'est un peu eux qui vont décider, quoi.
On peut pas vraiment comparer parce que c'est un gardien et je pense que le fait d'avoir du rythme ou pas, c'est peut-être un petit peu moins important que Mbappé ou Verratti qui sont amenés à faire des courses et répéter des efforts.
Le rythme, c'est une chose, t'as raison, Jonathan. Par contre, sur la blessure aux ischio-jambiers, donc ce fameux biceps fémoral qui est une des blessures les plus récurrentes chez le footballeur, faut savoir que c'est toujours la stat que je dis, mais je crois que c'est, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est 80% des blessures chez un footballeur, les ischio. Et il y a quand même eu ce petit épisode où Navas ne veut pas sortir contre Leipzig. Mais finalement, il est obligé de sortir.
Et que ça a été long.
Et ça a été très long. Déjà, comme dit Daniel, on a senti que le joueur voulait rester. Et Tuchel, lui, sur la touche, il était un peu agacé parce qu'il voulait faire le changement. Moi, je ne vois pas comment tu peux sortir.
Il n'y a pas eu à ce moment-là l'épisode « J'attends un peu » parce que ça lui permettait de faire un stop changement là, faire rentrer deux mecs. Et donc, on n'est même pas réellement sur
la touche.
C'est pour ça que je ne m'hasarderais pas à avoir un avis.
Normalement, physiologiquement, je ne vois pas comment tu peux être blessé sur une demi-finale et jouer à peine une semaine après.
Mais c'est inutile les discussions de médecins parce qu'on n'a pas les vraies infos, Kevin.
Sait quand même qu'il est sorti et qu'il boitait.
Mais d'accord, mais Mbappé, regarde, Mbappé, ça devait être 3 mois ou 2 mois,
non,
1 mois.
Trois semaines.
Et résultat, il est revenu plus vite que prévu. Verratti, ça devait être rien du tout de la Ligue des Champions. Et là, paraît-il, il peut être titulaire un dimanche. Donc, il communique pas réellement sur la nature des blessures. Donc, moi, je veux bien qu'on passe une heure à faire les médecins. Mais
Alors, par contre, je voudrais rajouter quelque chose. Ça fait 48 heures que je passe mon temps au téléphone avec la presse allemande. Et Daniel a dit quelque chose de très important, la notion de que le groupe était en autogestion. Et c'est le sentiment qu'ils ont en Allemagne aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont beaucoup moins d'informations, évidemment, que les journalistes français qui sont spécialistes du PSG et tout ça. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un groupe en autogestion avec Tuchel, tu vois, ça n'existe pas en Allemagne, à Mayence et à Dortmund. Ça va au clash tout de suite, etc. Et entendre en Allemagne qu'ils sentent que le groupe parisien est en autogestion, ça les perturbe un petit peu quand même. Même s'ils le sentent, ils disent, il y a quelque chose.
Mais en Allemagne, ils sont quand même au courant qu'il y avait 99% de chances qu'à la 89e minute, si le score en restait là contre l'Atalanta, Tuchel aujourd'hui soit plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Ça aurait été la même chose.
Oui, mais ça joue quand même dans le facteur de l'autogestion.
Est-ce qu'en Allemagne, ils se sont rendus compte que c'était une copie totalement différente de Thomas Tuchel par rapport à ce que vous avez connu?
Mais oui, mais moi, depuis 2 ans, j'observe ça.
Est-ce qu'en Allemagne, ils le savent? Ils en rendent
compte? Oui, mais alors, je vais donner une autre information qui me semble importante parce que, avec le livre qu'on a écrit avec Daniel, quand même, on dit qu'il n'est pas aimé en Allemagne.
Sur Tuchel.
Sur Thomas Tuchel, évidemment. Et il y a quelques semaines, un livre, pour la première fois, il y a une biographie de Thomas Tuchel qui est sortie, avec Daniel Neuren, qui d'ailleurs apparaît dans notre bouquin. Et c'est un bide, le bouquin. Je l'ai eu au téléphone il y a 48 heures, et j'ai dit, mais pourtant le bouquin, je l'ai reçu, hein, je l'ai lu, il est très très bien, enfin c'est pour le public allemand. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit, mais il le déteste. Et je dis, ma maison d'édition m'a demandé à faire un club numéro 3. Et j'ai dit, c'est fou. Enfin, c'est un truc.
Pourtant, il est quand même assez agréable.
Ah ben oui, mais je pense qu'en France, on a une image de lui qui est totalement différente que celle qu'il a pu laisser en Allemagne.
Alors, moi, je pense non. Moi, je depuis.
Mais attends, pourquoi il le déteste?
Passionne beaucoup
non.
Les gens.
Hein mais non, moi, c'est important.
Je vais te dire.
L'image qu'on a vue en France, c'est un pantin.
Au niveau des supporters, il est devenu quasi indifférent.
Oui, il est neutre. C'est un pantin. C'est un géo.
Pourquoi les Allemands détestent Tuchel? C'est intéressant.
Parce que déjà, il y a le rapport avec le public. Thomas Tuchel est un élitiste. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens qui ont du pouvoir. C'est-à-dire qu'il
Il
est pas proche des gens, il est pas proche du public. C'était son problème à Mayence. C'était son problème. Enfin, faut rappeler le truc. Klopp a amené.
C'est l'ami des puissants.
Mayence. C'est pas qu'il est ami. Ouais, il recherche.
Pas ami,
il veut être ami des puissants.
Il veut, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que Nagelsmann est dans la même lignée. Mais le Jürgen Klopp, il a amené Mayence en Bundesliga. Tuchel a installé un peu le petit golf de Mayence en Bundesliga, dont tu devrais avoir deux statuts de coach à Mayence. Mais il y en a un qui, il est ignoré complètement. Dortmund, on va pas expliquer comment ça s'est mal fini à la fin et tout ça, même s'il y a une cabale, même s'il y a des choses qui sont passées, mais il est pas aimé. Et donc, il y a toujours la même chose. il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'appartenance. C'est un mercenaire au sens noble du terme, je vends mes compétences. Demain, c'est Barcelone, demain, c'est Chelsea. Ouais. Demain. Mais le rapport qu'il a avec les supporters, il n'est pas là. Le rapport qu'il a avec la presse, ça ne l'intéresse pas. En Allemagne, on nous disait qu'il devait aller en conférence de presse, il ne voulait pas y aller, de toute façon, ils disent tous des couillons, et moi, je vais m'occuper des U19. Donc voilà, c'est un mec qui est focus sur son métier.
Non, on en a quelques-uns en France aussi, comme ça.
Non, mais c'est ramené à sa gestion du PSG, les propos de Polo, bah, ça donne que... il a réussi déjà à ne se brouiller avec personne, ce qui est bon, on va dire un point positif dans son management. Il est pas, c'est pas le meilleur pote de Leonardo. Ça, je pense que Leonardo, s'il pouvait changer d'entraîneur,
Leonardo en voulait pas dès le début, dès qu'il arrive.
Ouais, Troller, il va avant.
Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Leonardo, quand il arrive, il aurait aimé un autre entraîneur.
Voilà. Donc là, Navas, visiblement, va voir avec les médecins. Je me sens de jouer. Bon, si tu te sens de jouer, tu vas jouer parce que c'est toi le titulaire. Pour Verratti, en revanche, ça peut poser un autre problème. L'autre problème, c'est tu reviens, est-ce que tu es réellement à 100%? Est-ce que tu déséquilibres pas le milieu de terrain qui a été bon dans le dernier match? Dans un match où il va falloir beaucoup courir, est-ce que tu es en état de beaucoup courir?
C'est ça surtout la clé.
Est-ce que de quel côté tu vas jouer du milieu? Parce que si tu es du côté de la fusée, là, il va falloir lui courir après et tenter de l'arrêter. Ça, c'est un autre problème. Je ne sais pas quel statut il a réellement.
Mais le problème, c'est que
si c'est Mbappé, Neymar, les mecs comme Marquinhos, Navas, on sait que c'est les total titulaires. Verratti, il a un désavantage, c'est qu'il a raté tous les derniers matchs. Les derniers matchs de la qualif, lui, il n'était pas là. Dortmund, il n'est pas là. Atalanta, il n'est pas là. Leipzig, il n'est pas là.
Aujourd'hui, dans les titulaires, on peut rajouter Paredes, qui en plus est très proche de Neymar.
Je sais pas trop là-dessus.
Sur Verratti.
Je vois pas Paredes en aucun cas sur le banc.
Si Verratti joue, c'est pour Herrera, tu dis.
Écoutez juste Verratti quand même.
Le milieu droit.
Il y a une conférence de presse de Verratti. Alors, c'est quand même pas anodin que Verratti s'exprime à 72 heures d'un match, mine de rien.
Ça avait fait la même chose avec Herrera sur le match où on avait également un petit doute sur sa présence. Il est venu parler, il a joué.
On écoute à vous.
De mecs qui ont parlé et qui n'ont pas joué.
Oui, enfin en général, tu ne fais pas parler à un joueur qui est complètement out.
Dès aujourd'hui, ils sont sûrs qu'il est en état. Donc sa récupération est totalement effectuée et il peut démarrer le match.
Bon, on écoute justement, il en parle.
Ça va mieux. J'ai commencé doucement avec l'équipe. C'était une blessure que c'était un peu dur à gérer parce qu'il est venu en façon un peu étrange. On prend beaucoup de coups. Cette fois, ça me fait vraiment mal. Mais j'ai recommencé maintenant avec les groupes, ça fait 2-3 jours. Et bien sûr, j'essaie de tout pour être dans les matchs. Déjà, j'étais disponible pour les matchs de demi-finale. C'est pour ça que j'ai continué à travailler, de faire des thérapies, pour arriver dans la meilleure forme possible. Après, c'est le coach qui prend ses décisions, mais je ferai de tout pour être dans les bons 3.
Bon, ouais. Le problème que j'ai avec c'est le fait que Verratti joue ou pas, c'est que dans les deux cas, admettons, s'il joue, donc c'est soit la place d'Herrera, soit la place de Paredes. Donc ça sera Marquinhos avec Paredes, Verratti ou Verratti, Herrera. Le problème que j'ai, c'est que Daniel l'a dit, dans ce match-là,
Jean-Claude Gaye est de retour aussi.
Comment?
Gaye est de retour aussi, Mohamed nous l'a dit.
Mais le problème, c'est que dans ce match-là, il va falloir beaucoup courir. Il y a une chose que les Lyonnais ont très bien fait, et notamment Cacré, c'était de faire beaucoup d'allers-retours et d'aller mettre beaucoup de pression sur Thiago Alcantara. Il va avoir un nombre de kilomètres de course à haute intensité à faire. Déjà, intrinsèquement, je pense pas que ce soit le genre de joueur qui soit capable de le faire.
Il peut aussi partir dans l'idée qu'il ne joue que la moitié du match. Hein.
Mais est-ce que c'est le genre de joueur à aller faire le pressing, à aller, à faire beaucoup de courses? On l'a jamais vu faire ça. Il a d'autres qualités. Il sait très bien ressortir la balle sous la pression, conserver le ballon. Mais face au Bayern, je sais pas si c'est la meilleure situation.
Il peut également.
Même un joueur qui récupère pas mal de ballons dans un match.
Le côté pressing un petit peu moins.
C'est ça.
Mais il est intelligent dans son placement pour casser des passes, des lignes de passes.
Il peut assurément sur une moitié de match être très utile s'il se décide à jouer vite. Pour trouver en verticalisant les mecs de devant. Ça, il peut. Tu me diras qu'Herrera peut le faire aussi, Paredes encore mieux. Mais clairement, moi, le principal problème que j'ai avec lui, c'est sur une durée. Sur une durée, il a toujours une limite à passer la 50e. Si en plus il revient de blessure, ça va être plus compliqué. Alors si le match se joue à un rythme de sénateur comme le PSG-Lyon finale de Coupe de la Ligue, il peut jouer 120 minutes, il peut même en jouer 160. Ça se joue en marchant, il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas sûr que contre le Bayern, ça se joue en marchant. Mais sur une moitié de match, peut-être même la fin, voilà, il est évident que pour garder la balle, qualité de passe, sa façon de garder le ballon, ça peut vraiment
mais
aider le PSG.
Face à une équipe comme le Bayern, je suis pas. Alors autant toute l'année, moi, j'aurais bien aimé voir Verratti et Paredes jouer, avec Paredes notamment devant la défense. Mais face à une équipe comme le Bayern qui va mettre beaucoup de pression, je sais pas si les deux en même temps c'est très judicieux. Parce que Paredes est très bon, mais c'est pas non plus un joueur qui fait beaucoup de courses.
C'est vrai, il a pas un volume de course phénoménal. Mais voilà, donc c'est.
De toute façon,
moi, je redis toujours la même chose, hein, mais Marquinhos derrière, Paredes devant la défense, avec Verratti.
Trop tard.
Maintenant, c'est trop tard. Et Herrera ou Gay. Ah,
Kevin, pour conclure sur le dossier, c'est la meilleure formule.
En parlant de formule, cher à coach Courbis, en termes de profil de milieu de terrain, ce qu'a dit Jonathan, c'est clair. C'est-à-dire que Verratti et Paredes ont le même profil. Des joueurs qui doivent jouer devant la défense, sont à l'aise avec le ballon, qui peuvent aussi défendre, qui peuvent avoir l'intelligence.
Verratti, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué devant la défense. Paredes, c'est son poste de formation devant la défense.
Pas devant Verratti, la défense, parce que là, de toute façon, c'est Marquinhos qui joue là.
Il est 10 de formation.
Non, il est numéro 5.
Alors là,
les premiers matchs qu'il fait à Boca, il est clairement devant la
défense. Attention, numéro 5 en Amérique du Sud, c'est pas défense centrale. C'est devant la défense. C'est 6 pour nous, en fait.
C'est 6.
Non, mais les gars,
attends deux secondes là-dessus.
Mais Verratti aussi a commencé 10.
Oui, mais lui dit qu'il a commencé 5. J'en ai parlé avec Balzaretti, qui l'a fait venir à la Roma, qui l'a connu, avec qui il a commencé. Lui, j'étais très étonné. Il me soutient que c'est un 10 à la base. Il me confirme qu'effectivement il a énormément de qualité.
Sa formation, il a été formé en 10, mais ses premiers matchs en professionnel à Boca, il joue devant la défense.
Son volume de course ne peut pas être extensible. Il n'a pas caisse monumentale pour être un box-to-box et avoir beaucoup de kilomètres au compteur. Ça, c'est un problème. Donc, si tu en mets deux comme ça, Paredes et Verratti, qui ne sont pas capables d'avaler les kilomètres contre le Bayern, ça peut être un risque.
C'est ce que je disais. Juste pour finir. Alors là, il y a Marquinhos qui joue. Pour moi, il est même pas 6, Marquinhos. Il est vraiment
un défenseur central.
Ouais, c'est le troisième défenseur central.
J'ai une confirmation que c'est un 10 à la base.
Il a été formé en 10, mais ses premiers matchs en pro, c'est devant la défense.
Alors, les gars, j'aimerais que Mathis puisse donner son avis. Mathis, bonsoir. Salut Mathis.
Bonsoir.
Supporter de Paris. Toi, tu veux pas que Verratti joue, toi?
Non, dans le contexte actuel, pardon, je préfère pas. Bonsoir à tous, déjà, j'ai pas dit bonsoir.
Salut Mathis.
Salut.
Non, je pense que c'est trop tard. J'aurais bien aimé, par exemple, contre l'Atalanta, il aurait été utile, mais là, tout de suite, je ne suis pas pour changer.
Tu veux maintenir l'équipe qui est en demi-finale, tu veux la même?
C'est trop dangereux de changer maintenant. Ça a bien tourné, je vois aucune raison de changer.
Mais exactement, surtout que Mathis, moi, c'est ce que je disais hier, je vois pas pourquoi Thomas Tuchel changerait son 11 de départ. Après, il fera ce qu'il veut, c'est lui l'entraîneur, mais c'est une équipe qui a bien fonctionné, qui a gagné 3-0 sa demi-finale, que tous les joueurs qui ont été alignés n'ont pas de pépins physiques. Pourquoi tu vas remettre un Navas qui certes est au-dessus de Rico, mais qui a un risque de récidive sur sa blessure qui est
Navas,
énorme?
Il se sent, Kevin, oui. Le problème de Verratti est différent. Tu sais pourquoi il devrait pas le faire, mais pourquoi il risque de le faire? Parce que Herrera est pas un joueur. En plus, il a pas joué énormément. Il sort que de deux matchs, quoi, là. C'est pas un mec qui fera des vagues. Et c'est pas un mec qui revendique une place de titulaire.
Mais en termes de profil, c'est le bon complément de Paredes et Marquinhos.
C'est là qu'on va voir si Tuchel dirige vraiment le groupe ou si un mec avec un statut de titulaire comme Verratti, en disant « je suis prêt, je dois jouer », il l'aligne. Tu vois, en fait, c'est un peu comme s'il prend la place de personne parce que Herrera, c'est pas un mec qui revendique, c'est un mec qui a pas joué, qui a pratiquement tout le temps été blessé, qui fera pas de vagues, qui est un type génial. Si on lui dit bon ben Verratti reprend sa place de titulaire, lui il va aller sur le banc et puis il va attendre et puis ça se trouve il rentrera à la 50e parce que Verratti sera cramé ou parce qu'il verra que c'est utile de le mettre.
Ça veut dire que t'as quand même trois joueurs au profil défensif dans ton milieu de terrain. Trois joueurs au profil défensif.
Mathis, tu voulais dire un autre truc là sur la victoire éventuelle du PSG.
Le PSG a quasiment joué comme ça.
S'il vous plaît les gars, vas-y Mathis.
Ouais, alors juste toute petite précision sur la question d'avant. Si on part sur une nouvelle saison, c'est hors de question de voir Marquinhos au milieu pour moi. Pour moi, c'est Marquinhos, Kimpembe la défense, mais c'est là pour cette finale. Je vois pas pourquoi changer. Ensuite, en fait, je voulais mentionner le fait pourquoi c'était ultra important pour nous de gagner la C1. Au-delà du fait que c'est une C1, c'est une Ligue des Champions, c'est toujours beau, c'est que ça va pouvoir donner énormément de temps au PSG pour les saisons à venir, le temps d'une chose qu'il n'avait pas avant. Il se sentait pressé. Alors, j'inclus tout le monde dedans, soit supporters, joueurs, dirigeants, médias, etc.
Ce serait une façon différente de construire le club de façon plus sereine, quoi.
Exactement, ça pourra permettre de recruter plus intelligemment, de former plus intelligemment, de pouvoir mettre des jeunes sur le terrain sans avoir une pression constante de devoir aller toujours plus loin en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il n'y en a qu'un club par an qui la gagne et tous les autres sont déçus. Et je pense que même installer un entraîneur sur la durée, on ne laisse jamais un entraîneur l'exemple de Carlo Ancelotti, il est criant. Première année de Ligue des Champions, il fait un quart de finale, on n'a rien de passé en demi-finale. Il y a eu un couac entre Nasser et lui, et Carlo Ancelotti a préféré partir. Alors qu'il a peut-être qu'avec du temps, on aurait pu construire différemment.
Voilà, un changement d'entraîneur, Mathis, sera pas négatif pour le PSG. C'est bon, Tuchel, même si Paris gagne la Ligue des Champions, je pense qu'on pourra dire que le PSG en a fait le tour, hein, très franchement.
Oui, non.
Oui, pour lui, ce sera une belle sortie, même. Tu dis, j'ai gagné le plus beau des trophées.
Exactement. On voit bien que de toute façon, l'empreinte n'est pas folle sur le jeu, sur son implication même à la vie du club, à la façon dont il est dans ce club. Demain, Paris gagne la Ligue des Champions, Tuchel, j'ai l'impression qu'on n'en ressortira même pas comme un acteur majeur.
Dans quelques instants, on est de retour. On entendra Kylian Mbappé, interview très intéressante qu'on n'a pas pu entendre dans l'after parce que c'était dans la nuit après le match qui s'est exprimé. Et puis, Polo nous donnera quand même des nouvelles de Boateng. Blessure musculaire, va-t-il jouer, va-t-il pas jouer? Certains souhaitent qu'il soit là absolument parce qu'on considère qu'il est lent. Mais est-ce que c'est vrai? Polo va tout nous dire dans quelques instants, évidemment. Et Jonathan nous dira également sa vision de supporter de l'OM avant cette finale. C'est important parce qu'à Marseille, on en parle beaucoup de cette finale. Eh oui, c'est tout de suite dans l'after.